Chapitre 23. Brouillard de la guerre, orage de la bataille. Pour le moment, en tout cas, il ne pleuvait pas. Guidant Taïda Ishar pour qu'il contourne un arbre déraciné gisant en travers de la pente, Rand plissa le front en découvrant le cadavre étendu derrière cet obstacle. Petit et râblé, l'homme au visage ridé portait des plates d'armure bleue et verte. Fixant sans les voir les nuages noirs dans le ciel, il poussait sa ressemblance avec Eagan Padros jusqu'à avoir lui aussi une jambe arrachée. C'était un officier, à l'évidence. L'épée qui gisait près de lui avait une poignée d'ivoire sculptée pour évoquer la silhouette d'une femme, et son casque laqué, en forme de tête d'insecte, était orné de deux longues plumes bleues. Sur près de 500 pas, le versant de la montagne était semé d'arbres déracinés et bien souvent entièrement carbonisés. Il y avait aussi des cadavres, tous déchiquetés par la violence du Saïdin. Presque tous portaient un voile de maille et un plastron décoré de rayures verticales. La lumière en soit remerciée, il n'y avait que des hommes dans ce charnier. Autre point positif, on avait achevé les chevaux blessés. Quand ils souffraient, les équidés hurlaient avec une puissance incroyable.
« Tu crois que les morts sont silencieux ?»
lança Loustérine avec un rire rauque.
« Sans blague. À mes oreilles, ils crient sans arrêt. »
« Aux miennes aussi. » pensa tristement Rand. « Je ne peux pas m'offrir le luxe de les écouter. Mais comment les fais-tu taire ?»
Loustérine se mit à pleurer sur le sort de sa chère Iliéna.
« Une grande victoire !»
déclara Wairamon dans le dos de Rand.
« Mais bien peu d'honneur à en retirer. Les anciennes méthodes étaient bien meilleures. »
Alors que la veste de Rand était souillée de boue, le Haut-Seigneur restait resplendissant, comme lors du départ de la Voix d'Argent. Comment son armure et son casque pouvaient-ils briller ainsi? Vers la fin, les Tarabonais avaient chargé, leur courage et leur lance contre le pouvoir de l'unique. Pour les écraser, Wairamon avait conduit sa propre charge, sans en avoir l'ordre, bien entendu. À l'exception des défenseurs, et de Toréan, même à demi-sou, tous les Théariens l'avaient suivi. Sémaradrid et Grégorine Panar aussi, avec presque tous les Kérieniens et les Ilianiens. L'inaction leur ayant posé, les hommes s'étaient jetés sur la première occasion d'agir. Les Achamans auraient pu faire aussi bien qu'eux et plus vite, mais en répandant encore plus de sang. Rand n'avait pas participé au combat, se contentant de rester en selle à un endroit où les hommes pouvaient le voir. Refusant de leur révéler sa faiblesse, il ne s'était pas connecté à la source. Pas question de communiquer sa détresse actuelle aux soldats. À cette seule idée, Loustérine avait bredouillé d'horreur. Détail aussi surprenant que la tenue immaculée de Wairamon, Anaïela chevauchait à ses côtés, et sans minauder pour une fois. L'air pincé, elle ne cachait pas sa désapprobation. Bizarrement, ça l'enlaidissait moins que ses éternels sourires mielleux. Comme à Ilil, elle ne s'était bien évidemment pas jointe à la charge, mais son maître des chevaux y avait laissé la vie, une lance du Tarabonne fichée dans la poitrine. La dame n'avait pas apprécié du tout. Mais pourquoi était-elle avec Wairamon? Le grégarisme des Théariens? Peut-être. La dernière fois qu'il l'avait vue, Anaïella était avec Sunamon. Contournant les morts, en ne leur accordant pas plus d'attention qu'aux troncs d'arbres et aux souches calcinées, Bachéré gravissait lui aussi la pente. Ses gants passés à sa ceinture, son visage accroché au pommeau de sa selle, il était maculé de boue sur tout le côté droit, et son cheval aussi.
« Arakom est mort, » annonça-t-il. « Flynn a tenté de le guérir, mais je doute que notre ami aurait aimé vivre dans cet état. Pour le moment, nous avons près de 50 morts, et d'autres blessés ne survivront pas. »
Anaïella blêmit. Rand l'avait vu pencher près d'Arakom, vomissant jusqu'à ses tripes. La mort des gens du peuple la remuait beaucoup moins. Le jeune homme eut un bref sentiment de pitié. Pas pour la femme, et pas vraiment pour le défunt. Non, pour Mine. Même si elle était en sécurité à Kérienne. Dans une de ses visions, elle avait prévu la mort d'Arakom, de Gayam et de Marakon également. Quoi qu'elle ait vu, Rand pria pour que ça ait été très loin de la réalité. Parmi les Achamans, la plupart des soldats étaient repartis en patrouille. Mais dans la Grande Vallée, des portails tissés par les dévoués de Gilwyn laissaient passer les charrettes et les montures. Dès qu'ils découvraient le champ de bataille, les hommes qui les accompagnaient écarquillaient les yeux. Le sol de la vallée n'avait pas été autant labouré par le pouvoir que le versant des montagnes. On y trouvait pourtant de larges et longs sillons qu'un cheval n'aurait peut-être pas pu sauter d'un bond. On n'avait toujours pas retrouvé les damanes de l'adversaire. Selon Rand, il n'y en avait qu'une, sinon les dégâts auraient été encore plus gros. Dans la vallée, des hommes allaient et venaient autour de petits feux où chauffaient de l'eau pour les infusions, entre autres choses. Pour une fois, les Théariens, les Kériéniens et les Ilianiens se côtoyaient, et pas seulement les hommes du rang. Semaradrid partageait sa flasque avec Geyam, qui massait lentement d'une main son crâne chauve. Marakon et Kirill Drapaneos, un grand type maigre au cou de cigogne et au visage étroit mangé par la barbe, étaient assis sur les talons près d'un feu. Apparemment, ils disputaient une partie de cartes. Des nobliaux du Kérien entouraient Toréan et riaient aux éclats, à cause des blagues de l'ivrogne ou de sa façon de tituber, tout en frottant son énorme nez rubicon. Les légionnaires, eux, faisaient toujours bande à part. Mais ils avaient intégré les volontaires qui, suivant Padros, s'étaient ralliés à l'étendard de la lumière. Depuis qu'ils avaient appris comment était mort leur chef, ces hommes se montraient plus coopératifs que jamais. Pour l'heure, les légionnaires en veste bleue leur montraient comment changer de direction sans s'éparpiller comme un troupeau d'oies. Avec Adlai, Hopewill et Mor, Flynn officiait parmi les blessés. Comme Rand, Narishma pouvait seulement guérir des contusions. Et Dashiva était encore moins doué qu'eux. Leur cheval tenu par la bride, Gedwin et Rothschild, loin de tout le monde, conversaient au sommet de la colline qui se dressait au milieu de la vallée. Cette colline où ils avaient espéré piéger les Séanchaniens lorsqu'ils sortiraient des portails qui l'entouraient. Près de 50 morts et d'autres à venir. Mais sans Flynn et ses compagnons, on serait au minimum arrivé à 200. Gedwin et Rothschild n'avaient pas voulu se salir les mains, et ils avaient fait la grimace quand Rand les y avait contraints. Parmi les morts, il y avait un Ashaman, un soldat. Un autre, un Kériénien en visage rond, était prostré à côté du feu. Son regard vide n'avait rien d'étonnant, puisqu'il avait été soulevé du sol par une explosion. En tout cas, Rand espérait que c'était l'explication. Dans la vallée, Aelil conférait avec son capitaine de la lance, un petit homme au teint blafard appelé Denarad. Leurs chevaux se touchant presque, ils parlaient à voix basse, et jetaient souvent un coup d'œil à Rand. Que complotaient-ils ces deux-là ?
« Nous serons meilleurs la prochaine fois, »
dit Bachéré. Il balaya la vallée du regard, puis secoua la tête.
« Commettre deux fois la même erreur est impardonnable. Mais ça ne nous arrivera pas. »
Wairamon entendit la remarque et la reprit à son compte, mais en utilisant 20 fois plus de mots. Et des bien ronflants, histoire de marquer le coup, sans pour autant admettre qu'il y avait eu des erreurs, et en tout cas, surtout pas de sa part. En habile courtisan, il évita aussi d'évoquer les bourdes du dragon réincarné. Rand hocha la tête. Oui, la prochaine fois, il serait meilleur. Il le fallait, s'il ne voulait pas que la moitié de ses hommes finissent enterrés dans ces montagnes. Mais pour l'heure, il se demandait que faire des prisonniers. La majorité des survivants ennemis avaient réussi à se replier sous le couvert des arbres encore debout. Une retraite en assez bon ordre qui avait étonné Bachéré. Cela dit, ils ne représentaient plus guère de menace, sauf si la Daman était avec eux. Mais il y avait aussi une centaine d'hommes désarmés et privés de leur armure, qui attendaient assis sur le sol, sous l'œil d'une vingtaine de défenseurs et d'Ilianiens. Pour l'essentiel, il s'agissait de Tarabonais, et ils n'avaient pas combattu comme des hommes forcés à le faire par un conquérant. Beaucoup d'entre eux gardaient la tête bien droite, et lançaient des insultes à leurs gardiens. Gedwin s'était déclaré pour une exécution de masse, après un passage par la question. Wairamon se fichait qu'on égorge ce type, mais les torturer lui semblait une perte de temps. Comme il n'y avait pas un seul noble parmi eux, on n'en tirerait rien. Rand jeta un coup d'œil à Bachéré. Wairamon n'avait toujours pas terminé sa tirade.
« Nous nettoierons ces collines pour toi, Seigneur Dragon. Ces chiens, nous les écraserons sous nos sabots, puis... »
Anaïella buvait du petit lait.
« 6 debout, une demi-douzaine à terre, »
souffla Bachéré. Du bout d'un ongle, il fit sauter un peu de boue d'une des extrémités de sa moustache.
« Ou comme disent certains de mes métayers, ce qu'on gagne avec les portes battantes, on le perd avec les tourniquets. »
« Par la lumière, qu'est-ce que ça voulait dire ? Avec des métaphores comme ça, on ne risquait pas d'aller loin. » Le retour d'une des patrouilles du maréchal aggrava encore les choses. Devant eux, les 6 cavaliers faisaient avancer, en la stimulant avec l'embout de leur lance, une prisonnière aux cheveux noirs, vêtue d'une robe bleue foncée au corsage orné de panneaux rouges et au bas arborant un éclair fourchu. Les joues crasseuses et sillonnées de larmes, elle titubait et faillit tomber. Mais la stimulation était plus symbolique qu'effective, ce qui ne l'empêchait pas de foudroyer du regard les 6 hommes, et même de cracher dans leur direction au moins une fois.
« Vous l'avez maltraité ?»
demanda Rand, alors que l'inconnu le regardait en ricanant. Une question étrange, après ce qui s'était produit dans cette vallée, surtout au sujet d'une soule d'âme. Mais les mots étaient sortis tout seuls.
« Ce n'est pas nous, Seigneur Dragon, »
répondit le chef de la patrouille.
« On l'a trouvé comme ça. »
Se grattant le menton sous sa foisonnante barbe noire, il quêta du regard le soutien de Bachéré.
« Elle prétend qu'on a tué sa Gilles. Une chienne ou une chatte, je suppose, à la façon dont elle en parle. Son nom à elle, c'est Nérite. Nous n'avons pas pu lui en faire dire plus.
La femme regarda de nouveau Rand, le gratifiant d'un rictus. Le jeune homme soupira. Non, il ne s'agissait pas d'une chienne ou d'une chatte. Ces noms-là ne figuraient pas sur sa liste. En revanche, celui de Gilles Ladaman y était bel et bien, retentissant avec les autres dans sa tête, presque en permanence. Lou Stérine recommença à pleurer son Iliena. Ce nom aussi était sur la liste des femmes mortes à cause de Rand. En un sens, c'était légitime.
« C'est une Aes Sedai Seanchanienne ?»
demanda Anaïella, penchée sur sa selle pour mieux observer Nérite. La prisonnière cracha aussi dans sa direction. Rand exposa le peu qu'il savait sur les Souldam, ces femmes sans lien avec la source, qui contrôlaient, via une sorte de terang réal, d'autres femmes capables de canaliser le pouvoir. À sa grande surprise, la haute dame d'habitude si minaudière lâcha froidement.
« Si le seigneur dragon ne veut pas heurter sa conscience, je la prendrai pour lui. »
Nérite cracha de nouveau, avec un profond mépris cette fois. À l'évidence, elle ne manquait pas de courage.
« Non !»
s'écria Rand. Les gens étaient décidément prêts à faire n'importe quoi pour entrer dans ses bonnes grâces. À moins qu'Anaïella ait été plus proche de son maître des chevaux que l'autorisaient les convenances. Le type était gros et chauve. Un roturier par-dessus le marché, ce qui n'était pas rien chez les Théariens. Mais en matière d'hommes, les femmes avaient souvent des goûts bizarres. Il était bien placé pour le dire.
« Dès que nous serons prêts à repartir, seigneur Bachéré, il faudra libérer les prisonniers. »
S'en encombrer pendant la prochaine attaque était hors de question. Et laisser une centaine d'hommes, voire plus d'ici à quelques heures, progresser avec les charrettes de l'intendance, était une recette très sûre pour avoir de gros ennuis. Ici, ils ne pouvaient pas faire de mal. Et même ceux qui avaient réussi à filer à cheval, avec l'idée d'aller prévenir leurs amis, n'iraient pas plus vite que lui avec un portail. Bachéré haussa les épaules. Il n'était pas radicalement opposé à la façon de voir les choses de Rand, mais il y avait toujours le risque d'un impondérable. Même sans Taveren dans les parages, des choses étranges survenaient parfois. Wairamon et Anaïella voulurent protester, mais Rand leur coupa la chic.
« J'ai pris ma décision, et elle est irrévocable. En revanche, nous garderons la femme, et toutes celles que nous capturons éventuellement. »«
Que la lumière brûle mon âme !»
s'exclama Wairamon.
« Pourquoi donc ?»
Il semblait sincèrement étonné, et Bachéré tressaillit presque imperceptiblement lui aussi. Anaïella eut une moue méprisante, qu'elle parvint de justesse à transformer en un sourire mielleux adressé au seigneur Dragon. À l'évidence, elle le croyait trop mollasson pour laisser une femme avec les autres prisonniers. Pour rentrer chez eux, ils devraient négocier un terrain plus qu'hostile, sans parler des vivres réduits au minimum. Et ce n'était pas un temps à mettre une femme dehors.
« J'ai assez d'Aes Sedai contre moi pour ne pas relancer des Souldam dans le circuit. »
expliqua Rand. La lumière lui soit témoin que c'était la pure vérité. Ses trois interlocuteurs approuvèrent du chef. Sans grande conviction pour Wairamon, avec un sincère soulagement pour Bachéré, et non sans déception pour Anaïella. Mais que faire avec la Souldam, puis avec d'autres captives? Pas question de transformer la tour noire en prison. Les Aiel pouvaient être une solution, n'était qu'elle risquait d'égorger les Seanchaniens dès qu'il aurait le dos tourné. Alors pourquoi pas les Aes Sedai que Matt emmenait à Kaemlyn avec Elaine?
« Quand cette campagne sera terminée, je les confierai à des Aes Sedai de mon choix. »
Avec un peu de chance, ses sœurs verraient ça comme une preuve de bonne volonté de sa part. Une façon de compenser le fait de les obliger à accepter sa protection. Dès que Rand eut fini de parler, Nérite devint blanche comme un linge, et elle hurla à s'en casser les cordes vocales. Sans se taire, elle partit à la course, dévalant la pente en sautant par-dessus les troncs d'arbres.
« Rattrapez-la !»
cria Rand. Au risque de se briser les os et ceux de leur monture, les six cavaliers de la patrouille se lancèrent à la poursuite de Nérite. Quand ils l'eurent rejointe, elle zigzaga entre les chevaux, toujours en braillant comme une possédée. À l'entrée du col le plus à l'est, un portail s'ouvrit soudain. Tenant son cheval par la bride, un achaman en veste noire en sortit et sauta en selle, alors que l'ouverture se refermait déjà derrière lui. Puis, au galop, il fonça vers le sommet de la colline où se trouvaient Gedwin et Rothschild. Rand le suivit des yeux sans broncher. Dans sa tête, Loustérine radotait au sujet des achamans, répétant qu'il fallait les tuer tous avant qu'il soit trop tard. Au moment où Gedwin, Rothschild et le messager s'engageaient sur la pente en direction de Rand, quatre des six cavaliers réussirent enfin à bloquer Nérite, la plaquant sur le sol, tous les membres immobilisés. La voyant se débattre encore et tenter de mordre tout ce qui passait à sa portée, Bachéré, amusé, paria sur ses chances de parvenir à se libérer. Anaïella marmonna qu'on devrait fendre le crâne de cette furie.
La fendre en deux ? Se demanda Rand, en foudroyant du regard la noble dame. La chamane qui chevauchait entre Rothschild et Gedwin, un soldat, jeta un regard gêné à Nerit. Rand se souvint d'avoir vu cet homme à la tour noire, le jour où il avait distribué les insignes. Plusieurs épées d'argent pour les dévoués et le premier dragon pour Taïm. Varil Nensen, c'était son nom, était un très jeune homme qui portait toujours un voile transparent sur son épaisse moustache. Cela dit, il n'avait pas hésité un instant quand il lui avait fallu affronter ses compatriotes du Tarabonne. Comme Taïm le répétait sans cesse, les Achamans devaient fidélité à la tour noire et au dragon réincarné. Ce second élément venait toujours avec un certain décalage, comme si Taïm devait faire un effort pour s'en souvenir.
« Tu vas avoir l'honneur de faire ton rapport au dragon réincarné, soldat Nensen, »
dit Gedwin d'un ton mi-figue, mi-raisin. Le soldat se redressa sur sa selle.
« Seigneur dragon »
cria-t-il en se tapant du poing sur la poitrine.
« Il y a d'autres ennemis à environ 10 lieues d'ici, à l'ouest. »
10 lieues, c'était la distance maximale que Rand autorisait aux éclaireurs. Après, ils devaient revenir à leur point de départ.
« La moitié de la force que nous avons affrontée ici, seigneur dragon. » Et
Nensen regarda de nouveau Nerit. Elle était ligotée, et les hommes de Bachéré suaient sang et eau pour la hisser en travers d'une selle.
« Je n'ai pas vu de femme, seigneur dragon. »
Bachéré sonda le ciel, les yeux plissés. Des nuages noirs l'obscurcissaient uniformément, mais le soleil devait être encore assez haut.
« Il est temps de faire manger les hommes avant le retour des autres éclaireurs, »
dit-il. Il hocha la tête, l'air satisfait. Malgré ses liens, Nerit avait réussi à mordre le poignet d'un homme, et elle s'y accrochait comme un blaireau.
« Qu'il mange vite dans ce cas, »
marmonna Rand. « Toutes les souldames qu'il ferait prisonnières seraient-elles aussi pénibles ?»«
Je ne veux pas passer l'hiver dans ces montagnes. »
Gilles Ladamane. Une fois qu'un nom s'ajoutait à cette liste, plus moyen de l'effacer.
« Les morts ne se taisent jamais, » murmura Loustérine. « Et ils ne dorment pas. »
Rand se dirigea vers les feux de cuisson, mais il n'avait pas d'appétit. Perché sur un grand rocher en forme de tête de flèche, Fourik Karédé étudia attentivement les montagnes au versant boisé qui se dressaient tout autour de lui et dont les pics acérés le faisaient penser à des crocs. Son cheval, un hongre pommelé puissant, tendit les oreilles, comme s'il avait entendu un bruit ayant échappé à son maître. Mais il ne broncha pas. Très régulièrement, Karédé devait s'interrompre pour nettoyer les lentilles de sa longue-vue. Le maudit crachin, comme d'habitude. Gorgé d'eau, les deux plumes noires qui ornaient son casque pendaient misérablement, et la pluie s'insinuait dans son dos. Mais ce n'était rien comparé à l'averse de la veille, et plus que probablement à celle du lendemain, ou de l'après-midi à venir, car le tonnerre grondait au sud. Mais le temps était le cadet des soucis de Karédé. En contrebas, les derniers de ces 2300 hommes, des soldats récupérés dans 4 avant-postes différents, finissaient de franchir les cols sinueux. Des hommes bien équipés, munis de bonnes montures et encadrés par des officiers convenables, mais dans le lot, 200 à peine étaient des Séanchaniens. Et à part lui, 2 autres seulement portaient l'armure rouge et vert de la garde. 2/3 des soldats restants étaient des Tarabonais, réputés pour leur courage, le dernier tiers étant composé d'Altariens et d'Amadiciens, des ralliés de trop fraîche date pour être fiables. Dans ces 2 nations, beaucoup de gens avaient déjà retourné leur veste 2 ou 3 fois, ou essayé en tout cas. De ce côté de l'océan d'Arit, on ignorait le sens du mot scrupule. 10 de soldats avançaient en tête de la colonne. Hélas, 2 damans seulement marchaient à côté de leurs chevaux. 50 pas devant les souldames, les 10 hommes qui composaient le fer de lance, une sorte de détachement avancé, sondaient eux aussi les pentes environnantes. Mais Karédé les trouva insuffisamment concentrés. Trop souvent, les soldats du fer de lance se reposaient à l'excès sur les éclaireurs, censés détecter les dangers avant eux. Karédé nota mentalement de leur en toucher un mot. Après s'être fait souffler dans les bronches, ils feraient leur boulot correctement. Sinon, on pourrait toujours les affecter à l'entretien des latrines. Arakan apparut à l'est, planant au-dessus de la ligne des arbres. Avec une certaine grâce, il montait et descendait pour s'adapter au relief du paysage. Un peu comme la main d'un homme qui caresse le dos d'une femme. Bizarre ça. En général, les morats Raken aimaient voler très haut dans le ciel, sauf quand les éclairs le zébraient. Karédé abaissa sa longue vue pour mieux suivre les évolutions du Raken.
Nous allons peut-être avoir un nouveau rapport des éclaireurs volants,
dit Jadranka, aux autres officiers massés derrière Karédé, pas à lui. Sur les 10, 3 avaient le même grade que lui, mais à part les membres du sang, et encore les plus éminents, rien n'impressionnait un homme vêtu de l'armure rouge sang et vert foncé de la garde de la mort. S'il fallait en croire les histoires qu'il avait entendues étant enfant, un des ancêtres de Karédé,
obéissant à un ordre d'Arthur Aldefaucon, avait suivi Luther Pendrag sur le continent séanchanien. 200 ans plus tard, alors que seul le nord du continent était pacifié, un autre de ses ancêtres avait tenté de se forger un royaume. Après son échec, il avait fini vendu sur un marché aux esclaves. C'était peut-être bien vrai. Après tout, beaucoup de Dacovalais prétendaient avoir une ascendance noble. Quand ils étaient entre eux, en tout cas. Car les membres du sang ne trouvaient pas ça drôle du tout. Quoi qu'il en soit, Karédé s'était félicité de sa chance, quand les sélectionneurs l'avaient choisi alors qu'il était un garçon certes robuste, mais pas encore assez âgé pour qu'on lui confie des missions. Aujourd'hui encore, il se rengorgeait dès qu'il pensait au corbeau tatoué sur ses épaules. Pour les exhiber, beaucoup de gardes de la mort se baladaient torse nu, dès qu'ils en avaient l'occasion. Les humains, en tout cas. Les jardiniers augiers ne portaient pas de marque et n'appartenaient à personne. Mais c'était une affaire entre l'impératrice et eux. Comme tous les hommes de la garde, Karédé était un Dacovalais. En d'autres termes, la propriété corps et âme du trône de cristal. Et il s'en rengorgeait. Se battant là où le lui ordonnait l'impératrice, il tomberait le jour où elle lui dirait de tomber. Les gardes n'obéissaient qu'à elle, et quand ils intervenaient quelque part, c'était en son nom, pour être le prolongement de sa main. Dans ce contexte, pas étonnant que certains, parmi les membres du sang, soit mal à l'aise en voyant passer un détachement de la garde. Une bien meilleure vie que de nettoyer les écuries d'un haut seigneur ou de servir le caf chez une haute dame. Cela dit, avoir été envoyé dans ces montagnes pour inspecter les avant-postes était vraiment un coup de malchance. Les deux éclaireurs couchés sur leur selle, le Rakan partit en direction de l'ouest. Pas de message ni de rapport pour lui. Conscient que c'était un tour de son imagination, Karédé eut pourtant l'impression que la créature reptilienne au très long cou était angoissée. À sa place, un autre officier que lui l'aurait été aussi. Depuis qu'on lui avait donné l'ordre, 3 jours plus tôt, de prendre le commandement et de partir pour l'Est, il avait reçu très peu de messages. Et ceux-ci avaient épaissi le mystère plutôt que de l'éclaircir. Les indigènes, des Altariens, étaient entrés dans les montagnes en force, semblait-il. Mais par quels moyens? Les routes qui longeaient la lisière nord de cette chaîne de montagnes étaient surveillées, à partir de la frontière de Liliane, par des éclaireurs volants et des patrouilles à cheval ou à dos de Torm. Qu'est-ce qui avait pu pousser les Altariens à une telle démonstration de force? Une affaire de solidarité? Certes, dans ce pays, un homme pouvait se battre en duel pour un regard de travers. Cela dit, ces gens avaient très vite appris que défier un membre de la garde revenait à offrir leur gorge à la lame d'un couteau. Mais Karédé avait vu des nobles de cette prétendue nation prêts à vendre leur père et leur reine, en échange d'une meilleure protection pour leur domaine, et peut-être de l'ajout à celui-ci d'une partie des terres de leurs voisins. Colosse aux traits trompeusement doux, Nadok pivota sur sa selle, pour suivre le Rakan du regard.
« Je n'aime pas avancer à l'aveugle, » dit-il. « Pas alors que les Altariens ont réussi à poster au moins 40 000 hommes dans ces montagnes. »
Jadranka grogna si fort que son grand ongre blanc renacla. Doyen des 3 autres capitaines, à part Karédé, il servait dans la garde depuis aussi longtemps que lui. Petit, mince, et doté d'un nez proéminent, il prenait de tels grands airs qu'on aurait pu le croire membre du sang. Et son cheval se voyait à des lieues à la ronde.
« Qu'il soit 40 ou 100 000, Nadok, ces soldats sont dispersés entre ici et la fin de la chaîne, donc incapables de se soutenir les uns les autres. Que la lumière m'aveugle si une bonne moitié de ces hommes ne sont pas déjà morts. Partout, ils doivent être en train d'en découdre contre nos avant-postes. C'est pour ça qu'on ne nous envoie pas de rapport. Nous sommes là simplement pour écraser les minables survivants. »
Karédé ravala un soupir. Au début, il avait espéré que Jadranka ne serait pas un crétin, malgré ce que laissait craindre son allure. Les rumeurs de victoire circulaient très vite, qu'on a écrasé une armée ou un modeste détachement. Les rares défaites, en revanche, étaient encaissées en silence et très rapidement oubliées. Ce silence était donc inquiétant.
« Le dernier rapport ne m'a pas semblé évoquer des minables survivants, »
insista Nadok. Lui aussi, il avait un cerveau et il savait l'utiliser.
« Il y a 5 000 hommes à moins de 20 lieues de nous, et je doute qu'il nous suffise de balais pour nettoyer le terrain. »«
Nous les écraserons, »
grogna Jadranka.
« Que ce soit avec des balais ou des épées. Je brûle d'impatience de passer enfin à l'action. Du coup, j'ai dit à nos éclaireurs d'avancer jusqu'à ce qu'ils repèrent l'ennemi. Pas question de le laisser nous filer entre les doigts. »«
Tu as fait quoi ?»
demanda Karédé d'un ton égal. Malgré sa réserve, tous les regards se tournèrent vers lui. Mais avant, Nadok et quelques autres eurent du mal à ne pas fixer Jadranka avec des yeux ronds comme des soucoupes. Des éclaireurs qui savaient que chercher et inciter à avancer sans limite? Comment pouvait-on donner de tels ordres? Avant qu'un des officiers ait pu parler, des cris montèrent d'un des cols.
des beuglements d'hommes et des hennissements de chevaux. Karédé porta à son œil sa longue vue. Dans le col qui s'ouvrait juste devant lui, les soldats et leurs montures mouraient sous une pluie de ce qui devait être des carreaux d'arbalète, à la façon dont ces projectiles transperçaient les plastrons et les cottes de mailles. 100 hommes gisaient déjà à terre. 100 autres, blessés, titubaient sur leurs selles, ou couraient pour ne pas être achevés par les coups de sabot de leurs montures, en train d'agoniser sur le sol. Sous les yeux de Karédé, les hommes encore en selle et indemnes firent volter leurs montures afin de fuir le danger. Mais où étaient donc les soldats? Impossible de les localiser. Par le passé, Karédé avait affronté des rebelles comptant dans leur rang des soldats et des damans, les éléments à éliminer en priorité. Les Altariens avaient peut-être eux aussi appris cette leçon. Soudain, le sol explosa littéralement sous les sabots des chevaux et les semelles des hommes. Comme la terre et les pierres, des membres, humains ou non, furent projetés dans les airs. Des éclairs bleus tombaient du ciel, retournant la terre et ceux qui la foulaient. Quelques hommes explosèrent, réduits en lambeaux par rien de visible. Les Altariens disposaient-ils de Daman? Non, ça devait être l'œuvre de ces maudites Aes Sedai.
Qu'allons-nous faire?
Demanda Nadok. Il semblait étonné, et c'était compréhensible.
Envisages-tu d'abandonner tes hommes?
Rugit Jadranka.
Nous allons les rallier à nous, puis attaquer, espèce de...
L'imbécile se tut quand la pointe de l'épée de Karédé lui transperça la gorge. À certains moments, on pouvait tolérer les crétins. À d'autres, ce n'était pas possible. Alors que Jadranka basculait de sa selle, Karédé essuya sa lame sur la crinière du hongre blanc. En certaines circonstances, en rajouter un peu était utile.
« Nadok, nous allons rallier qui nous pouvons, »
dit Karédé, comme si Jadranka n'avait jamais prononcé un mot. Mieux, comme s'il n'avait jamais existé.
« Après avoir sauvé ce qui peut encore l'être, nous nous replierons. »
Alors qu'il s'apprêtait à descendre dans le col où le massacre continuait, Karédé ordonna à Angar, un jeune soldat fiable qui chevauchait une monture rapide, de foncer vers l'est, afin de faire un rapport sur les événements en cours. Des éclaireurs volants l'apercevraient, ou peut-être pas. Désormais, Karédé pensait savoir pourquoi les Rakens volaient si bas. Presque à coup sûr, la haute dame Sourotte et les généraux, à Eboudar, étaient informés de ce qui se passait dans les montagnes. Était-ce le jour où il allait devoir mourir pour l'impératrice? Eh bien, il n'allait pas tarder à le savoir. Sur la crête presque plate à la végétation clairsemée, Rand regardait la forêt en direction de l'ouest. Quand le pouvoir circulait en lui, mélange d'extase et de répulsion, il distinguait chaque feuille individuellement, mais ce n'était pas suffisant. Nerveux, Taïdaïchar renacla. Tout autour de Rand, les pics déchiquetés dominaient la crête d'au moins 1500 pieds, sinon plus. Mais le point d'observation du jeune homme surplombait néanmoins très nettement la vallée boisée, longue et large d'une bonne lieue, qui s'étendait à ses pieds. Pour le moment, rien ne bougeait, aussi paisible que le vide. Mais ça ne tarderait pas à changer. De ci, de là, de la fumée s'élevait d'un groupe de 2 ou 3 arbres en train de brûler comme de la paille. Sans l'humidité ambiante, la forêt aurait déjà été transformée en un gigantesque brasier. À part Flynn et Dashiva restés avec Rand, tous les autres Ashaman étaient dans la vallée. À une distance respectueuse du dragon réincarné, les deux hommes, tenant leur cheval par la bride, sondaient la forêt en contrebas. Enfin, Flynn la sondait, exactement comme Rand. Dashiva n'y jetait que de brefs regards. Le reste du temps, il grimaçait ou parlait tout seul. Un tic qui inquiétait à l'évidence le pauvre Flynn. Les deux Ashamans étaient gorgés de pouvoir, presque au point d'exploser. Mais pour une fois, Loustérine s'abstenait de tout commentaire. Depuis quelques jours, il se cachait de plus en plus souvent dans quelques recoins de l'esprit de Rand. Dans le ciel où brillait le soleil, les nuages gris s'effilochaient. 5 jours plus tôt, Rand avait fait entrer son armée en Altara, et aussitôt, ou presque, il avait vu son premier cadavre de Séanchanien. Depuis, il y en avait eu d'autres. Cette pensée glissa sur la surface du cocon de vide. À travers le gant, Rand sentit le héron gravé au fer rouge dans sa paume, appuyé sur la hampe du sceptre du dragon. Quel silence oppressant! Et pas une seule créature volante en vue. Avant que leurs cavaliers apprennent la prudence, 3 de ces reptiles ailés, à ce propos, ces créatures fascinaient Bachéré, avaient été abattus par des éclairs. Du calme.
« Seigneur dragon, c'est peut-être fini, »
dit Aelil. Sa voix ne tremblait pas, mais elle flattait fébrilement l'encolure de sa jument, alors que celle-ci n'avait aucun besoin d'être rassurée. Lorgnant Flynn et Dashiva, la noble dame se redressa sur sa selle, refusant de dévoiler la moindre faiblesse devant ces hommes-là.
S'apercevant qu'il fredonnait, Rand s'obligea à arrêter. C'était l'habitude de Loustérine, quand il regardait une jolie femme, pas la sienne. Non, pas la sienne, par la lumière. Il commençait à adopter les comportements de ce type. Et alors qu'il n'était même pas là, en plus. Soudain, des roulements de tonnerre montèrent de la vallée. Du feu jaillit des arbres à une demi-lieue de là, puis le phénomène se reproduisit plusieurs fois. Des éclairs s'abattirent très près des endroits d'où s'élevaient les colonnes de feu, et pendant quelques instants, l'enfer se déchaîna. Puis le calme revint. Cette fois, aucun arbre ne s'était embrasé. En partie, le Saïdine était à l'origine de ces flammes et éclairs, mais en partie seulement. Des cris retentirent, lointains et étouffés. Ils venaient d'un autre secteur de la vallée, pensa Rand. Trop éloigné pour que ses oreilles, même stimulées par le Saïdine, puissent entendre le cliquetis du métal contre le métal. Malgré tout, les achamans ne se chargeaient pas de la totalité du travail. Anayela relâcha son souffle, qu'elle devait retenir depuis le début des explosions. Que des hommes s'affrontent à coups d'épée ne la dérangeait pas. Cela dit, elle flatta elle aussi l'encolure de son cheval, qui avait pourtant à peine bronché. Un comportement typique des femmes. Pour se calmer, s'efforcer de rassurer les autres, même s'il n'en avait pas besoin. Et faute d'une personne, un cheval pouvait faire l'affaire. Bon sang, où était Loustérine ? Agacé, Rand se pencha pour étudier de nouveau la vallée. Hélas, la plupart des arbres, des pins et des lauréoles, étaient à feuilles persistantes. Malgré la récente sécheresse, ils formaient un rideau végétal très dense, même pour la vision amplifiée de Rand. Presque distraitement, il toucha le ballot glissé sous la sangle de son étrier. Il pouvait s'en mêler, non ? Oui, et frapper à l'aveuglette. S'il descendait dans la forêt, il y verrait un peu mieux. Mais pas assez pour être plus efficace qu'un soldat de base des achamans. Un peu plus loin sur la crête, un portail s'ouvrit, révélant des arbres très différents de ceux d'ici. Et un achaman de base, justement, en émergea. Le teint mat, portant une fine moustache et une perle dans le lobe de l'oreille, l'homme avança, en laissant l'ouverture se volatiliser derrière lui. Avec lui, il amenait une soule d'âme au bras lié dans le dos. Une femme qui aurait été très jolie, sans la bosse rouge sur sa tempe. Mais une femme en robe froissée et souillée, qui ne paraissait guère de bonne humeur. Ricanant à l'intention de l'homme qui la forçait à avancer, elle eut un rictus pour Rand dès qu'elle fut arrivée devant lui. La chamane salua son chef.
« Soldat Arlen Nalam ! Seigneur Dragon »
cria-t-il, le regard rivé sur la selle de Rand.
« Tes ordres stipulent de conduire devant toi toutes les prisonnières !»
Rand acquiesça gravement. Il avait exigé ça pour avoir l'air de faire quelque chose. Inspecter les captives, afin de confirmer qu'elles étaient bien ce qu'elles semblaient être.
« Soldat Nalam, emmène-la près des charrettes, et retourne te battre !»
Rand faillit grincer audiblement des dents. « Retourne te battre !» Oui, pendant que ton chef, le dragon réincarné, roi d'Ilian par-dessus le marché, se tourne les pouces sur son cheval. Nalam salua une deuxième fois Rand, puis il s'éloigna d'un pas vif, poussant devant lui sa prisonnière, qui recommença à tourner la tête. Mais pas pour le regarder. Les yeux braqués sur Rand, elle ne cachait pas sa stupéfaction. Pour une raison connue de lui seul, Nalam ne s'arrêta pas avant d'être revenu à l'endroit où il était arrivé. Pourtant, il lui aurait suffi de s'éloigner assez des chevaux pour ne pas les blesser.
« Que fais-tu donc ?»
lança Rand au soldat. Nalam se retourna à demi, hésitant.
« C'est plus facile si je suis à un endroit où j'ai déjà ouvert un portail. Seigneur Dragon, ici, le Saïdin me fait une impression bizarre. »
Rand indiqua au jeune homme qu'il pouvait continuer. Même s'il faisait mine d'étudier la sangle de celle de son cheval, Flynn souriait en coin. Dashiva, lui, s'esclaffa. Flynn avait été le premier à mentionner l'étrangeté du Saïdine dans cette vallée. Narishma et Opwil l'avaient entendu, mort ajoutant ses propres expériences bizarres dans la région des Boudards. Pas étonnant que tout le monde prétende ressentir quelque chose d'anormal, même si personne ne pouvait dire quoi. Le Saïdine faisait une impression curieuse, disaient ces hommes. Et alors, quoi d'étonnant ? Avec la souillure de la moitié masculine de la source. Les hommes ne pouvaient quand même pas avoir tous attrapé la nouvelle maladie de leur chef. Le portail de Nalam s'ouvrit, puis disparut, dès qu'il l'eut franchi avec sa prisonnière. Rand prit alors le temps de goûter pour de bon le Saïdine. La pureté de la vie mêlée à la plus vile corruption. Une glace capable de réchauffer jusqu'au cœur de l'hiver, et un feu assez froid pour geler les flammes d'une forge. Et enfin, la mort, attendant qu'il commette une erreur. Espérant qu'il la commette. Bref, Rien de nouveau ni de différent. Vraiment ? Rand foudroya du regard l'endroit où Nalaam avait disparu avec sa prisonnière. La 4e Souldam capturée aujourd'hui. La 23e conduite près des charrettes. Sans oublier deux damanes, toujours porteuses de leurs colliers et de leurs chaînes, et gardées à l'écart des autres femmes. À cause du collier, elle ne pouvait pas faire trois pas sans tomber plus malade encore que Rand lorsqu'il se connectait au pouvoir. Tout compte fait, il était bien possible que les sœurs que Matt accompagnait ne soient pas ravies de se charger de toutes ces femmes. La première damane, prise trois jours plus tôt, Rand n'avait pas voulu la considérer comme une prisonnière. À ses yeux, cette femme aux cheveux blonds et aux yeux bleus était une Séan Chanienne victime des Souldam et qu'il fallait libérer. Quelle erreur! Lorsqu'il avait forcé une Souldam à retirer son collier à la femme, celle-ci avait crié à son ancienne maîtresse de l'aider, puis frappé à l'aveuglette avec le pouvoir, tendant à un moment le cou pour que la Souldam lui remette le collier. Neuf défenseurs et un soldat des Achamans avaient péri avant qu'on puisse l'isoler de la source. Si Rand ne l'en avait pas empêché, Gedwin aurait abattu la damane sur le champ. Aussi mal à l'aise face aux femmes capables de canaliser que certaines sœurs face aux hommes ayant cette aptitude, les défenseurs demandaient toujours qu'on exécute la Séan Chanienne. Durant les combats, ils avaient eu des pertes, mais que leur frère d'âme tombe sous les coups d'une prisonnière semblait les offenser. Les pertes étaient plus lourdes que prévues. 31 défenseurs et 46 compagnons ilianiens. 200 légionnaires et soldats des nobles. Plus, parmi les achamans, 7 soldats et un dévoué, que Rand n'avait jamais vu avant qu'il réponde à son appel à venir le rejoindre en Iliane. Bien trop de morts. Surtout alors que presque toutes les plaies pouvaient être guéries, à condition que le blessé survive, jusqu'à ce qu'on ait le temps de s'occuper de lui. Mais Rand repoussait les Séanchaniens vers l'ouest, comme il le désirait, et il les poussait sans ménagement. D'autres cris retentirent au fond de la vallée. Après d'une lieue à l'ouest, du feu crépita et des éclairs s'abattirent. Des geysers de terre jaillirent dans les airs en même temps que des troncs d'arbres déracinés. Les Séanchaniens battaient en retraite.
« Flynn, Dashiva, descendez dans la vallée et dites à Gedwin d'accentuer la pression. L'accentuer, c'est compris ?»
Dashiva fit la grimace en regardant la forêt en bas. Puis il se mit en route, guidant maladroitement son cheval. Qu'il les chevauche ou les tire par la bride, cet homme était incroyablement maladroit avec les chevaux. Et là, il faillit même se prendre les pieds dans son épée.
« Tu veux rester seul ici, Seigneur Dragon ?»
demanda Flynn, sincèrement inquiet.
« Seul ?»
répéta Rand en regardant Aylil et Anayella. Les deux femmes avaient rejoint leurs soldats, soit environ 200 lanciers, à l'extrémité est de la crête. Fronçant les sourcils derrière la grille de son casque, Den Arad dirigeait à présent les deux groupes. Et s'il se concentrait uniquement sur la sécurité des dames, ces hommes restaient du genre à décourager la majorité des agresseurs. De plus, Wairamon tenait l'extrémité nord de la crête. Même une mouche ne pourrait pas passer, prétendait-il. Et Bachéré se chargeait du secteur sud. Peu enclin à l'avantardise, il avait simplement érigé un mur d'acier infranchissable, sans en faire tout un plat. Enfin, les Séanchaniens se débandaient.
« Flynn, je ne suis pas précisément sans défense. »
Dubitatif, Flynn gratta sa couronne de cheveux blancs, puis il salua Rand et se dirigea vers l'endroit où le portail de Dashiva se dissipait déjà. Continuant à avancer en claudiquant, Flynn marmonna que c'était bien de Dashiva, ça. Rand eut envie de crier. Il ne pouvait pas se permettre de devenir fou, et eux non plus. Quand le portail ouvert et franchi par Flynn se fut refermé, Rand revint à son observation de la vallée. Tout semblait calme. Le temps s'écoulait et rien ne se passait. L'idée d'attaquer et de prendre les avant-postes ennemis n'avait pas valu un clou. Le jeune homme était enfin disposé à le reconnaître. Sur ce terrain, on pouvait être à moins d'un quart de lieue d'une armée sans s'en apercevoir. Et dans cette vallée, en bas, si densément boisée, deux immenses troupes pouvaient se croiser sans se voir. Rand devait affronter les Séanchaniens sur un terrain plus propice. Il lui fallait... Soudain, le jeune homme dut faire face à une déferlante de Saïdin, qui menaçait de faire imploser son crâne. Une attaque. Si violente que le vide se dissipait, fondant sous cet assaut. Avant qu'elle le tue, Rand se coupa de la source. L'estomac retourné, il vit devant lui deux couronnes d'épées gisant sur un lit de feuilles mortes. Sur un lit de feuilles mortes ? Bon sang ! Il était tombé face contre terre. Incapable de respirer correctement, il luttait pour aspirer un peu d'air. Sur la couronne, une des feuilles de laurier était ébréchée, et du sang souillait la pointe de plusieurs petites épées. Un élancement dans son flanc indiqua que sa blessure qui ne guérirait jamais s'était rouverte. Quand il tenta de se relever, il cria de douleur. Hébété, il baissa les yeux et vit l'empennage de la flèche plantée dans son bras droit. Retombant sur le sol, il sentit un liquide chaud couler devant ses yeux. Du sang. De très loin, il entendit des cris stridents. Au nord de la crête, des cavaliers venaient de surgir, certains brandissant une lance et d'autres tirant flèche sur flèche avec leur arc court de cavalerie. En armure de plate bleue et rouge, ces hommes portaient un casque en forme de tête d'insecte. Tessé-Anchanien, par centaines, venant du nord. Un grand bravo pour Weyramon et sa défense infranchissable. Rand lutta pour se connecter à la source. Trop tard pour s'inquiéter d'être malade en public. Quant à s'étaler devant tout le monde, c'était déjà fait. En d'autres circonstances, il aurait sûrement trouvé ça drôle. Mais là, tâtonner pour atteindre la source, revenait à chercher une épingle dans le noir avec des mains engourdies. Et ça n'avait vraiment rien d'amusant.
« Il est temps de mourir, » murmura Loustérine.
Rand ne s'étonna pas de sa présence. Il savait depuis toujours que le spectre serait là à la fin. À moins de 50 pas de Rand, des Théariens et des Kyrieniens chargèrent les Séanchaniens en hurlant.
« Battez-vous, tas de chiens !»
cria Anaïella en sautant de selle à côté de Rand.
« Battez-vous !»
La si délicate dame vêtue de soie et de dentelle lança une bordée de jurons à faire rougir un charretier. Tenant sa monture par la bride, Anaïella regarda alternativement la bataille et le dragon réincarné. Du coup, ce fut Aelil qui vint le retourner sur le dos. Puis elle le regarda, l'expression de ses grands yeux noirs indéchiffrable. Vidé de ses forces, Rand ne pouvait pas bouger, et il n'aurait pas juré qu'il avait encore l'énergie de cligner des yeux. Le vacarme des épées et des cris l'assourdissait, et
« S'il meurt maintenant, Bachiré nous fera pendre toutes les deux !»
dit Anaïella, sans minauder le moins du monde.
« Si ces monstres en veste noire nous mettent la main dessus !»
Elle frissonna, puis se pencha vers Aelil et fit de grands gestes avec son bras droit armé d'un couteau que Rand n'avait pas remarqué jusque-là. Sur le pommeau, un rubis brillait de mille feux.
« Ton capitaine de la lance pourrait nous fournir une escorte suffisante pour nous permettre de ficher le camp. Quand on trouvera le cadavre d'Altor, nous serons très loin d'ici et de retour dans nos domaines lorsque... Je crois qu'il nous entend !»
dit très calmement Aelil. Ses mains gantées de rouge remuèrent au niveau de sa taille. Pour engainer un couteau, ou pour tirer la lame au clair.
« S'il meurt ici... »
La noble dame ne finit pas sa phrase et regarda autour d'elle. Des chevaux passaient au galop sur les deux flancs de Rande. Une charge dirigée vers le nord, sur les Séanchaniens. Épée au poing, Bachiré sauta au sol avant même que son cheval se soit arrêté. Grégorine Panard fut un peu plus prudent, mais après avoir mis pied à terre, il leva son épée et harangua ses hommes.
« Frappez l'ennemi ! Au nom du roi et de Liliane ! Le seigneur du matin !»
Le vacarme des armes et des cris gagna encore en intensité.
« Ce sera sûrement comme ça quand nous en serons à la fin. »
dit Bachiré en jetant un regard soupçonneux aux deux femmes. Il ne s'attarda cependant pas longtemps sur elles.
« Mort ! Que la lumière carbonise ta couenne d'Achaman ! Ramène-toi !»
Le maréchal ne précisa pas que le seigneur dragon était à terre. La lumière en soi remerciée, il n'était pas idiot. Au prix d'un terrible effort, Rand parvint à tourner la tête. Les Ilianiens et les cavaliers de Bachiré continuaient à foncer vers le nord. Donc, les Séanchaniens devaient battre en retraite.
« Mort !»
cria de nouveau Bachiré. À cet instant, la chamane sauta d'un cheval au galop, manquant de peu atterrir sur Anaïella. Alors que celle-ci semblait choquée qu'il ne songe même pas à s'excuser, Mort s'agenouilla près de Rand, puis écarta les cheveux noirs qui lui tombaient sur les yeux. Comprenant qu'il allait canaliser le pouvoir, Anaïella recula d'un bond. Aelil se releva plus lentement, mais fut tout aussi vive à s'écarter. Dans le même mouvement, elle rengaina son couteau à manche d'argent. La guérison était une chose simple, bien qu'assez désagréable pour le patient. Pour commencer, Mort brisa l'empennage de la flèche, puis il procéda à l'extraction en tirant d'un coup sec, une opération qui arracha un cri à Rand. Mais ce n'était que la première phase. Des morceaux de terre et des fragments de bois restèrent dans la plaie, lorsque ses lèvres se fermèrent. Mais parmi les Achamans, seuls Flynn et une poignée d'autres savaient utiliser le pouvoir pour éliminer les scories de ce genre. Moins doué que le vétéran, Mort posa deux doigts sur la poitrine de Rand, se mordit la langue de concentration et commença le tissage thérapeutique. Il suivait toujours cet étrange protocole. Sinon, il n'arrivait à rien. Bien entendu, ses flux étaient beaucoup plus simples que ceux de Flynn, le meilleur de tous et de très loin, et beaucoup moins délicat. Des vagues de chaleur déferlèrent en Rand, assez violentes pour lui arracher d'autres cris et le faire transpirer par tous les pores de sa peau.
Tremblant de tous ses membres, il songea qu'un rôti dans un four devait éprouver à peu près les mêmes sensations. Puis la chaleur se retira, le laissant pantelant.
« Tue-le !»
cria Loustérine dans sa tête.
« Tue-le !»
Après avoir réduit la voix du spectre à un faible bourdonnement, Rand remercia Mor, qui scia comme s'il s'attendait à tout sauf à ça. Puis il saisit le sceptre du dragon qui gisait près de lui, se redressa et se révéla fort peu assuré sur ses jambes. Bachéré fit mine de lui offrir son bras, mais il l'en dissuada d'un geste. Rand Altor pouvait tenir debout tout seul. Enfin, plus ou moins. En revanche, autant espérer s'envoler en battant des bras que penser un instant qu'il était en état de canaliser. Quand il toucha son flanc, sa main glissa sur du sang. Pourtant, l'ancienne blessure et la nouvelle, qui la zébraient, étaient simplement très sensibles. À demi guéri, mais ça, c'était ainsi depuis qu'il les avait. Un moment, Rand étudia les deux femmes. Anaïella murmura de vagues félicitations et eut un sourire mielleux à souhait, comme si elle était disposée à cirer les bottes du grand seigneur dragon. Aelil, elle, se tenait bien droite, l'air glacial, comme si rien n'était arrivé. Avait-elle envisagé de le laisser mourir? Ou de l'achever? Mais dans ce cas, pourquoi avoir envoyé leurs hommes au combat avant de venir près de lui? Cela dit, Aelil avait bel et bien dégainé son couteau pendant la conversation au sujet de la mort éventuelle de Rand. La majorité des Ilianiens et des cavaliers du Saldaea s'étaient lancés à la poursuite des Seanchaniens, qui détalaient vers le nord. Ce fut le moment que Wayramon choisit pour apparaître, chevauchant un grand destrier noir, ses hommes le suivant en colonne par deux.
« Seigneur dragon !»
s'exclama le haut seigneur, tout en mettant pied à terre. Le bougre était immaculé, comme depuis le début de l'expédition. Si la tenue de Bachéré semblait seulement un peu fripée, les beaux atours de Grégorine étaient maculés de boue et déchirés en de multiples endroits. Mais le courtisan Wayramon, lui, resplendissait.
« Pardonne-moi, seigneur dragon !»
dit-il, en se fendant d'une révérence appuyée.
« J'ai cru voir des Seanchaniens approcher de la crête, et je suis allé les affronter, sans me douter qu'il s'agissait d'une diversion. Tu sais à quel point je serais affligé s'il t'était arrivé malheur. »
« J'ai ma petite idée là-dessus, oui. »
Wayramon tressaillit. « Des Seanchaniens en approche ? » C'était possible. Cet imbécile ne pouvait pas résister à l'idée de mener une charge.
« Bachéré, » reprit Rand, « que vouliez-vous dire par « quand nous en serons à la fin ?»«
Il se retire, »
éluda le maréchal. Comme pour le faire mentir, des colonnes de flammes et des éclairs se déchaînèrent dans la vallée. Cela dit, la bataille serait bientôt finie, effectivement.
« Tes éclaireurs confirment que l'ennemi bat en retraite, »
dit Grégorine avec un regard étrange pour Mor. La chamane lui sourit de toutes ses dents. Pendant les combats, Rand avait vu Grégorine ferrailler à la tête de ses hommes, s'engageant sans peur dans la mêlée. Mais le sourire de Mor sembla le faire frissonner. Gedwin arriva sur ses entrefaites, tenant nonchalamment son cheval par la bride. Ricanant presque à l'intention de Bachéré et de Grégorine, il regarda pensivement Wayramon, à croire qu'il était déjà informé de sa boulette, et lorgna les deux femmes comme s'il se préparait à leur pincer le postérieur. Anaïella et Aelil reculèrent vivement, tout comme les hommes, y compris Mor, mais à l'exception notable de Bachéré.
« J'ai envoyé des éclaireurs dès que j'ai vu que ce groupe était en déroute, »
dit-il, en saluant Rand de la façon la plus minimaliste qui soit.
« Il y a trois autres colonnes, dans un périmètre de quatre lieues.
Toutes se dirigent vers l'ouest, »
précisa Bachéré d'un ton égal, mais avec un regard glacial pour Gedwin.
« Rand, vous avez réussi. Ils reculent. Et ils ne s'arrêteront plus avant Eboudar. Toutes les campagnes ne se terminent pas par un défilé triomphal dans une capitale. Celle-ci est finie. »
Assez bizarrement, encore que, Wayramon plaida pour une
« prise d'Eboudar afin de rendre hommage au seigneur du matin. »
Plus étrangement encore, Gedwin déclara qu'il n'était pas lassé de dérouiller les Seanchaniens et qu'il n'avait rien contre l'idée de découvrir Eboudar. Même Anaïella et Aelil militèrent en faveur d'une « action ferme » pour en finir une bonne fois pour toutes avec les Seanchaniens. Toutefois, Aelil précisa qu'elle préférait, si c'était possible, ne pas avoir à revenir pour achever le travail, car elle était sûre que le seigneur dragon ne pourrait pas se passer de sa compagnie dans une telle éventualité. Tout ça débité d'un ton aussi glacial qu'une nuit dans le désert des Aiel. Seuls Bachéré et Grégorine insistèrent pour que l'expédition rebrousse chemin. Voyant que Rand se taisait et regardait vers l'ouest, où se dressait Eboudar, ils se firent plus pressants.
Nous avons fait ce que nous étions venus faire,
dit Grégorine.
Seigneur, tu n'envisages pas de prendre la ville.
Et pourquoi pas, pensa Rand. Personne ne pouvait s'attendre à ça. Une totale surprise pour les Sanchaniens et tous les autres.
À certains moments,
intervint Bachéré,
il faut pousser son avantage et continuer à jouer. À d'autres, on ramasse ses gains et on rentre à la maison. Selon moi, il est temps de rentrer.
Ta présence dans ma tête ne me gênerait pas, dit Loustérine d'un ton presque sensé.
Si tu n'étais pas si fou.
Et Boudard. Rand serra très fort la hampe de son sceptre. Et Boudard. Loustérine ricana.